Chapitre 4. Je voyais l'autorité directoriale ébranlée, moins par les préludes des revers publics que par les menées sourdes des factions mécontentes. Sans se montrer encore à visage découvert, elles préparaient leurs attaques dans l'ombre. On se montrait fatigué généralement de l'esprit étroit et tracassier qui animait nos cinq rois à terme. On s'indignait surtout que leur autorité ne se fit connaître que par les exactions, les injustices et les inepties. En réveillant les passions assoupies, ils provoquèrent les résistances. Quelques conversations expansives avec des hommes influents ou attentifs et mon propre coup d'œil suffirent pour me faire juger sainement de l'état des choses. Tout annonçait de grands événements et une crise prochaine. Les Russes s'avançaient et allaient entrer en lice. On se lassa d'envoyer note sur note à l'Autriche pour essayer de les arrêter, et dès la fin de février, on donna le signal des batailles, sans qu'on fût prêt à faire la guerre. Le Directoire avait provoqué cette seconde coalition tout en se privant lui-même de ses meilleurs généraux. Non seulement Bonaparte était relégué dans les sables de l'Afrique, non seulement Hoche, échappé à l'expédition d'Irlande, avait fini par le poison, mais Pichegru était déporté à Sinnamary, mais Moreau était en disgrâce, mais Bernadotte, retiré de la diplomatie après l'éclat de sa légation de Vienne, venait de se démettre de son commandement de l'armée d'observation. Mais encore la destitution de Championnet était prononcée, qui avait voulu mettre un frein aux rapines des agents du directoire. Enfin, Joubert lui-même, l'intrépide et vertueux Joubert, avait reçu sa démission pour avoir voulu établir en Italie une liberté sage qui eût cimenté les liens qui unissaient deux nations dont les destinées semblaient devoir être communes. Cette seconde guerre continentale, dont la Suisse, l'Italie et l'Égypte n'avaient été que les préludes, s'ouvrit le 1er de mars. Et dès le 21, Jourdan perdit la bataille de Stockach qui le força à repasser précipitamment le Rhin. Douloureux présage qui fut bientôt suivi de la rupture du congrès de Rastatt, comédie politique dont le dernier acte fut un drame horrible. Nous ne fûmes pas plus heureux en Italie qu'en Allemagne. Scharrer, le général de prédilection de Rewbell, perdit sur l'Adige trois batailles qui nous ravirent en peu de jours avec la liberté de l'Italie des conquêtes qui nous avaient coûté trois campagnes laborieuses. Nous avions jusqu'alors envahi ou tenu ferme, qu'on juge de l'effet que produisit la nouvelle que partout nous battions en retraite. Tout gouvernement qui, en révolution, ne sait faire que des mécontents et ne sait pas vaincre, perd nécessairement le pouvoir. Au premier revers, toutes les ambitions reprennent le droit, une attitude hostile. J'assistais à différentes réunions de députés et de généraux mécontents, et je jugeais que les partis n'avaient pas au fond les mêmes intentions, mais qu'ils se réunissaient dans le but commun de renverser le directoire pour édifier ensuite chacun à sa manière. Je rectifiais à ce sujet les idées de Barras, et je l'engageais à forcer à tout prix l'expulsion de Rewbell. Bien sûr que nous aurions ensuite bon marché de Trélard, de Merlin et de Révelière. On était aigri surtout contre les deux derniers, comme ayant favorisé le système des scissions électorales imaginé pour écarter des conseils législatifs les plus ardents républicains. Je savais que Joseph et Lucien, frères de Bonaparte, chargés de soigner les intérêts de son ambition pendant son exil belliqueux, manœuvraient dans le même but. Lucien montrait un patriotisme exalté. Il était à la tête d'un parti de mécontents avec Boulet de la Meurthe. De son côté, Joseph faisait beaucoup de dépenses et tenait un grand état de maison. Là se réunissaient les députés les plus influents des conseils, les plus hauts fonctionnaires, les généraux marquants et les femmes les plus fertiles en intrigues. La coalition formée, Rewbell déconcertée, abandonnée par Merlin, à qui on le représenta comme un bouc émissaire qu'il fallait sacrifier, se crut trop heureux de marchander son élimination, couverte par le sort, à la condition principale qu'on respecterait sa retraite dans le conseil des anciens. Mais qui allait le remplacer au directoire? Merlin et les députés ventrus, ses acolytes, décidèrent qu'ils élèveraient à sa place Duval, de la scène inférieure, homme médiocre et nul, brave homme d'ailleurs, qui occupait alors le ministère de la police, où sa vue était trop courte pour y rien voir. On les laissa faire, et toute leur batterie dressée, on travailla efficacement pour Sieyès, ambassadeur à Berlin, dont on vantait depuis 10 ans la capacité occulte. Je lui savais réellement quelques idées fortes et positives en révolution, mais je connaissais aussi son caractère défiant et artificieux. Je lui croyais d'ailleurs des arrière-pensées peu compatibles avec les bases de nos libertés et de nos institutions. Je n'étais pas pour lui, mais je tenais à la coterie qui se forma tout à coup en sa faveur, sans pouvoir deviner par quelle impulsion. On alléguait qu'il importait de mettre à la tête des affaires, au début d'une coalition menaçante, l'homme qui, mieux que tout autre, connaissait les moyens de maintenir la Prusse dans sa neutralité si productive pour elle. On assurait aussi qu'il s'était montré fin politique en donnant les premiers éveils sur la coalition flagrante. On en vint à l'élection. Je ris encore du désappointement du subtil Merlin et du bon Duval, sa créature, qui, pendant que les conseils procédaient, avait établi une ligne télégraphique d'agents depuis l'hôtel de police jusqu'à la salle législative, chargée de transmettre au bienheureux candidat le premier avis de son exaltation directoriale, en apprirent qu'une partie du ventre en avait fait défection. Ni Merlin ni Duval ne pouvaient comprendre comment une majorité assurée peut se changer tout à coup en minorité. Mais nous, qui savions par quel ressort on opère, nous en fîmes des gorges chaudes dans d'excellents dîners où se tamisait la politique. Merlin vit dans Sieyès un compétiteur dangereux et de ce moment il se renfrogna. Quant au bonhomme Duval, bientôt remplacé par Bourguignon, il en devint misanthrope. Ces deux médiocres citoyens n'étaient pas plus faits l'un que l'autre pour manier la police. L'œuvre n'était encore qu'ébauchée. Pour l'accomplir, il se forma 2 coalitions législatives. Dans l'une figuraient Boulet de la Meurthe, Chénier, François de Nantes, Chalmel, Texier-Olivier, Berlin, Baudin des Ardennes, Cabanis, Régnier, les frères Bonaparte. Dans l'autre, on voyait Bertrand du Calvados, Poulain Grandpré, Destre, Garot, Arenas, Alicetti et d'autres ardents athlètes. Dans toutes deux, qui avaient en dehors de leurs auxiliaires, je ménageais à Barras des créatures, et il manœuvra lui-même assez bien. On agit d'abord que par des voies souterraines, le temps d'éclater n'était pas encore venu. À cet égard, nos revers nous servirent merveilleusement. Ils étaient inévitables. 170 000 hommes épuisés, fatigués, dégoûtés par 20 défaites et commandés par des généraux toujours à la veille d'une disgrâce, pouvaient-ils tenir tête à plus de 300 000 ennemis secondés en Italie et en Allemagne par les peuples et portés soit par l'ardeur de la victoire, soit par le désir de vengeance sur les frontières mêmes de la République? Bientôt, le déchaînement fut général contre la majorité du directoire. Son autorité, disait-on, ne s'est fait connaître que par des exactions, des injustices et des inepties. Au lieu de signaler sa dictature, il n'a fait depuis le 18 Fructidor qu'abuser de son immense pouvoir. Il a creusé le gouffre de nos finances et l'abîme qui menace aujourd'hui d'engloutir la République. Ce n'était que dans les conseils où le directoire trouvait encore des défenseurs, parmi ces créatures intéressées et ces apologistes maladroits. L'exaspération fut au comble quand Bailleul écrivit dans une brochure qu'il craignait plus les Russes au corps législatif que les Russes approchant des frontières. Un message concerté, adressé au directoire pour avoir des renseignements sur la situation extérieure et intérieure de la République, devint le signal de la bataille. C'était au moment où Sieyès, nouveau directeur, venait de s'installer. La réponse du Luxembourg ne venant pas, les conseils, dans la journée du 18 juin, 28 prairial, se déclarèrent en permanence. De son côté, le directoire s'y met aussi par représailles, mais déjà hors d'état de parer les coups qu'on va lui porter. On lui enlève d'abord le droit de restreindre la liberté de la presse. La manifestation de l'opinion n'étant plus comprimée, il n'est plus possible à des légistes de défendre le terrain. Aussi, à peine a-t-on contesté et révoqué la nomination de Trélard que Trélard se retire sans dire mot. Toutefois, Merlin et Révellière s'obstinaient et prétendaient tenir bon dans le fauteuil directorial. Boulet de la Meurthe et les députés de sa coterie vont au Luxembourg demander impérieusement la démission des deux directeurs. En même temps, Bertrand du Calvados, au nom d'une commission des onze dont Lucien fait partie, monte à la tribune et trouve moyen d'effrayer les directeurs par la préface de leur acte d'accusation. « Je ne vous parlerai pas, s'écrie-t-il, de vos rapinats, de vos rivaux, de vos trouvés, de vos fépultes, qui, non content d'exaspérer nos alliés par les concussions de toute nature, ont violé par vos ordres les droits des peuples, ont proscrit les républicains et les ont despotiquement destitués pour les remplacer par des traîtres. » Je n'étais pas étranger à cette sortie où se trouvait une approbation indirecte de ma conduite et un blâme tacite de celle qu'avait tenue le directoire à mon égard. Enfin, le 30 prairial, 18 juin, Merlière et Révellière, sous l'assurance formelle qu'ils ne seraient pas mis en cause, donnèrent leur démission et Sieyès devint le maître du champ de bataille. À l'instant même, toute la force de la Révolution vint se grouper autour de Sieyès et de Barras. D'accord avec les meneurs des conseils, ils firent jouer toutes les batteries afin de n'admettre au Luxembourg, pour collègues, en remplacement des directeurs expulsés, que des hommes tels Roger Ducos, Moulin et Goyer, incapables de leur causer d'ombrage par leur capacité ou la force de leur caractère. Cette combinaison tendait à les rendre maîtres des affaires, Roger Ducos étant associé de vote et d'intérêt avec Sieyès. Le premier fruit du triomphe des conseils sous le directoire fut la nomination de Joubert au commandement de Paris, nomination que Barras obtint de Sieyès et à laquelle je ne fus pas non plus étranger. Peu de jours après, je fus nommé à l'ambassade de Hollande. C'était une sorte de réparation que me devait le nouveau directoire. J'allais prendre congé de Sieyès. Il me dit que jusque-là on avait gouverné au hasard, sans but et comme sans principe, et qu'il n'en serait plus de même à l'avenir. Il témoigna de l'inquiétude pour le nouvel essor de l'esprit anarchique avec lequel, disait-il, on ne pourra jamais gouverner. Je répondis qu'il était temps que cette démocratie sans but et sans règles fît place à l'aristocratie républicaine ou au gouvernement des sages, le seul qui pût s'établir et se consolider. « Oui, sans doute, reprit-il, et si cela était possible, vous en seriez, mais que nous sommes encore loin du but. » Je lui parlais alors de Joubert comme d'un général pur et désintéressé, que j'avais été apporté de bien connaître en Italie et auquel on pourrait, au besoin, donner sans danger une influence forte. Il n'y avait à craindre ni son ambition ni son épée qui ne tournerait jamais contre la liberté de sa patrie. Sieyès, m'ayant écouté attentivement jusqu'au bout, ne me répondit que par un « c'est bien ». Je ne pus lire autre chose dans son regard oblique. On voit que je ne suis pas heureux dans mon intention de le sonder ou de provoquer sa confiance. Je savais qu'il avait eu, depuis peu, avec un ami de M. de Talleyrand, qui est devenu sénateur depuis, une conversation très significative, qui lui avait avoué que la Révolution errerait sans but en parcourant un cercle vicieux et qu'on ne trouverait stabilité et sûreté qu'à la faveur d'une autre organisation sociale qui nous présenterait l'équivalent de la Révolution de 1688 en Angleterre. Ajoutant qu'on voyait là, depuis plus d'un siècle, la liberté et la couronne couchées ensemble sans satiété et sans divorce. On lui avait fait l'objection qu'il n'y avait plus de Guillaume. « Cela est vrai, avait-il répondu, mais il y a, dans le nord de l'Allemagne, des princes sages, guerriers et philosophes et qui gouvernent leur petite principauté aussi paternellement que Léopold a gouverné la Toscane. » Voyant qu'il faisait allusion au duc de Brunswick, on lui avait opposé le manifeste de 1792. « Il n'est pas l'auteur de ce maudit manifeste, avait-il repris vivement, et il serait facile d'établir qu'il a conseillé lui-même la retraite de Champagne, se refusant de mettre la France à feu et à sang et d'agir pour les émigrés. Du reste, nous ne devons pas songer au fils du lâche Égalité, continua Seyès. Non seulement il n'a point assez d'étoffe, mais il est certain qu'il n'est pas réconcilié avec le prétendant. Il n'oserait pas faire un pas de lui-même. Parmi nos généraux, je n'en vois pas un qui soit capable ou en mesure de se mettre à la tête d'une coalition d'hommes forts pour nous tirer du gâchis où nous sommes, car il ne faut pas se dissimuler, notre puissance et notre constitution croulent de toutes parts. Cette conversation n'avait pas besoin de commentaires. Je savais aussi que Seyès avait tenu, sur notre situation intérieure, à peu près le même langage à Barras. Ces lueurs suffisent pour m'éclairer sur son compte et pour fixer mon opinion sur ses arrière-pensées. Nul doute qu'il n'eût déjà le projet de nous donner un pacte social de sa façon. L'orgueilleux prêtre était tourmenté depuis longtemps par cette ambition de s'ériger en législateur unique. Je partis avec la persuasion qu'il était parvenu à faire goûter ses vues à quelques hommes influents, tels que Donou, Cabanis, Chénier, Gara, et la plupart des membres du Conseil des Anciens, qui, entraînés depuis, ont dépassé le but qu'on s'était proposé. Tel fut le germe de la révolution qui se prépara bientôt, et sans laquelle la France eut inévitablement succombé dans les convulsions de l'anarchie ou sous les coups répétés de la coalition européenne. J'eus à peine le temps d'aller toucher bar à La Haye, où je remplaçais Lombard de Langres, sorte d'auteur maniéreux, mais d'ailleurs bonhomme. Je trouvais cette autre république cadette divisée dans ses autorités, en hommes forts et en hommes faibles, en aristocrates et en démagogues, comme partout ailleurs. Je m'assurais que le parti orangiste ou anglais n'avait aucune influence sur les destinées du pays, tant que nos armées seraient en état de protéger la Hollande. Là, je retrouvai Brune, qui maintenait nos troupes très fermes, tout en fermant les yeux sur les opérations d'un commerce illicite, indispensable pour ne pas consommer la ruine du pays. Je le laissai faire, nous ne pouvions manquer d'être d'accord. Comme moi, il se trouvait assez vengé par le renversement des gouvernants malhabiles qui nous avaient froissés et dépaysés mal à propos.